Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 10 avril. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports, Europe Voice, et le focus sur le premier tour des élections présidentielles en France. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 10 avril. Les Australiens se rendront aux urnes le 21 mai prochain pour voter aux élections législatives. L'OTAN travaille sur des plans pour une présence militaire permanente sur ses frontières orientales. Le premier tour des élections présidentielles en France, c'est ce dimanche. N'oubliez pas d'aller voter si vous êtes français résident en Australie. En Australie, on ira voter le 21 mai prochain aux élections générales. Le Premier ministre Scott Morrison s'est rendu ce matin à Government House à Canberra pour demander au gouverneur général David Hurley le feu vert pour organiser les prochaines élections législatives. Un certain nombre de manifestants anti-gouvernementaux et des communautés aborigènes étaient devant la maison du gouverneur général avant l'arrivée du Premier ministre. Scott Morrison vise à remporter deux élections consécutives. Mais le Parti travailliste est en tête dans les sondages depuis juin dernier. Scott Morrison a publié hier une vidéo dans laquelle il souligne les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays, l'environnement de sécurité mondiale instable et les risques confrontés par l'économie australienne.
You always have setbacks. You always have imperfect information. I mean, things are tough. And they've been really tough. There's drought, there's floods, there's fire, there's pandemic, there is now war. We're dealing with a world that has never been more unstable since the time of the Second World War.
Le ministre de la Défense, Peter Dutton, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les îles Salomon autorisent la Chine à établir une base militaire. Cependant, l'Australie reste préoccupée par la militarisation croissante de la région. Les responsables des affaires étrangères ont découvert un pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon lorsqu'un projet a été divulgué sur les réseaux sociaux. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce a demandé une copie de la D'accord, le premier ministre des îles Salomon, Manasse Sogavare, a depuis rencontré deux des plus hauts responsables du renseignement australien dans la capitale Honiara. Il a déclaré que son pays cherchait à élargir ses partenariats en matière de sécurité. Le premier tour des présidentielles en France, c'est ce dimanche, et une forte abstention est attendue pour ce scrutin, comme nous l'explique Laurence Théo pour RFI.
Il y a ceux qui sont catégoriques, ils n'iront pas voter à la présidentielle. Et puis il y a les indécis, ils ne bouderont pas les urnes, mais ces électeurs se prennent la tête dans les mains et hésitent encore. Bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, en ce début de printemps frisquet, Tristan est étudiant.
Sur cette présidentielle, c'est assez compliqué de faire un choix. Le débat a été un peu dissimulé derrière les événements actuels en Ukraine. Et on se rend bien compte que les problématiques qui nous, les plus jeunes, nous intéressent ne sont pas abordées. Je pourrais être amené à faire un vote par conviction et finalement j'aurais peut-être dû faire un vote utile, mais voilà, c'est la situation actuelle.
Un pied sur la pédale, l'autre à terre. Cette jeune femme a appuyé sur les freins de son vélo. Elle est dans l'incertitude.
C'est effarant, je trouve, l'impréparation de nos candidats en fait.
Et vous savez ce qui vous décidera finalement ?
L'émotion du moment, vraiment, ce sera en fonction de l'émotion du moment, je peux me mettre d'un côté ou de l'autre. sans plus de raison que ça.
Ses deux camarades, eux, sont même un peu plus qu'hésitants.
Non, je sais pas encore. À vrai dire, j'ai pas encore regardé les programmes.
Voilà, je suis un peu perdu, donc j'attends le deuxième tour et peut-être que j'aurai un avis un peu plus clair.
Toutefois, une chose est sûre, pour ces indécis, le droit de vote est aussi un devoir.
Et que pensent les électeurs de cette campagne présidentielle ? Écoutez ses réactions.
Il n'y a pas de campagne déjà, parce qu'on sait qui sera déjà élu.
C'était pas une campagne sereine.
Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette campagne présidentielle ?
Objectivement, pas grand-chose. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très superficiel. Et les candidats n'allaient pas au fond des choses, comme quand il y a un combat de boxe, si chacun s'adapte à la technique de l'autre. Quoi.
Il y a très peu de thèmes importants qui ont été abordés. On parle pas d'avenir à long terme, on parle pas de ce qui fera la France dans 10 ans, en fait.
Non, c'est une pseudo-campagne, parce que l'actualité, finalement, est beaucoup plus importante. L'actualité, évidemment, sortie de confinement, pandémie et puis tout de suite la guerre, qu'elle a été pratiquement inexistante.
L'OTAN travaille sur des plans pour une présence militaire permanente dans le but de contenir de futures agressions russes. L'alliance intergouvernementale est au milieu d'une transformation fondamentale qui reflétera les conséquences à long terme des actions du président russe, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans une interview au journal britannique The Telegraph. Selon lui, ce que nous voyons maintenant est une nouvelle réalité, une nouvelle normalité pour la sécurité européenne, et il a demandé aux commandants militaires de l'OTAN de proposer des options pour une réinitialisation, une adaptation à plus long terme pour l'organisation. Jens Stoltenberg a déclaré que les décisions seraient prises lors d'un sommet de l'OTAN qui se tiendra à Madrid en juin prochain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était déterminé à faire pression pour la paix et a renouvelé son appel à plusieurs pays pour qu'ils envoient davantage d'armes avant une recrudescence attendue des combats dans l'est de son pays. Il a fait ses commentaires un jour après qu'au moins 52 personnes ont été tuées lors d'une frappe dans une gare de la ville orientale de Kramatorsk et que des preuves de meurtre de civils ont été révélées après que les troupes russes n'ont pas réussi à s'emparer de la capitale Kiev. Volodymyr Zelensky se dit convaincu que les Ukrainiens accepteraient la paix malgré les horreurs dont ils ont été témoins au cours de la guerre qui dure maintenant depuis plus de 6 semaines.
No one wants to negotiate with a person or people who tortured this nation. It's all understandable. And as a man, as a father, I understand this very well, but we don't want to lose opportunities, if we have them, for a diplomatic solution.
Les troupes russes qui se sont retirées du nord de l'Ukraine se regroupent maintenant pour ce qui devrait être une poussée intensifiée pour reprendre la région orientale du Donbass, y compris la ville portuaire assiégée de Mariupol, que les combattants ukrainiens s'efforcent de défendre. Le président ukrainien a salué le courage de l'Ukraine alors qu'il s'adressait à l'événement d'engagement de l'Union européenne « Stand up for Ukraine », « Agir ». Pour l'Ukraine, à Varsovie, le chef de la branche exécutive de l'Union européenne dirige l'événement de collecte de fonds pour l'Ukraine et les personnes qui ont fui le pays. L'événement se tient à Varsovie parce que plus de 2 millions de personnes, des 4,4 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, sont entrées en Pologne. L'événement est destiné à inciter les dirigeants politiques et les célébrités mondiales à fournir des fonds et d'autres dons au peuple ukrainien. On écoute le président Volodymyr Zelensky.
45 days of a full-scale war and defense against Russians' attack. The attack by the largest country in the world, the largest by its territory, the largest by its aggressiveness, the largest by its impunity. Russian leadership failed to account for one fact. The fact that it attacks the other largest country in the world, Ukraine. The largest by its courage.
L'opposition pakistanaise a renversé le premier ministre du pays, Imran Khan, lors d'un vote de censure qu'elle a remporté après que plusieurs alliés du premier ministre et un parti clé de la coalition l'ont abandonné. Le président de l'Assemblée nationale du Pakistan en a fait l'annonce. Imran Khan, quant à lui, a appelé ses partisans à organiser des rassemblements dans tout le pays ce dimanche. Reportage de Sonia Ghezali pour RFI.
La motion de censure a été approuvée par 174 députés de l'opposition. Annonce du vice-président de l'Assemblée, la majorité étant obtenue avec 172 voix, c'est une victoire pour la coalition de l'opposition qui laisse éclater sa joie dans l'hémicycle. Une victoire sans surprise puisque l'opposition avait la majorité depuis plusieurs jours. Scène de liesse, au cœur de l'Assemblée, les cris de joie ont retenti au fur et à mesure que les différents chefs de l'opposition faisaient leur entrée dans l'Assemblée. Fazlur Rahman pour le JUIF, Shehbaz Sharif pour le PMLN, Bilawal Bhutto pour le PPP, le Parti du Peuple. Aucun membre du gouvernement n'était présent puisqu'ils avaient tous quitté la salle lorsque la tenue du vote était annoncée peu avant minuit heure locale. C'est une journée historique pour le Pakistan car c'est la première fois qu'un Premier ministre est évincé du pouvoir par une motion de censure. Et reste à savoir comment le nouveau gouvernement va se mettre en place. Un gouvernement qui sera formé par une coalition de partis de l'opposition mais qui sont des rivaux politiques historiques. Certains craignent une période d'instabilité. D'autant qu'Imran Khan a averti qu'il ne respectera pas ce nouveau gouvernement. Imran Khan qui a aussi appelé à des manifestations ce dimanche soir. La crise politique au Pakistan est loin d'être terminée.
En Afrique, en Gambie, il y a eu des élections législatives hier et très peu de gens ont voté. Reportage Milan Bergmans pour RFI.
Devant le stade de Bakao et son bureau de vote à quelques kilomètres de la capitale, une petite vingtaine d'électeurs font la file. Parmi les premiers à voter, c'est la période de Ramadan qui explique le peu d'affluence et on a bon espoir que les autres électeurs arrivent plus tard dans la journée.
La participation est très faible, mais heureusement, les gens viendront plus tard. Pour ce qui est de la participation, les gens vont venir voter. C'est le Ramadan, alors ils viendront entre 1h et 2h cet après-midi.
Mais plus tard dans l'après-midi, dans un bureau de vote de Fajara, l'ambiance est encore plus calme. Sur ces 664 inscrits, Issatou Belaba, présidente de bureau de vote, n'en compte que 142. Du coup, elle tente de s'occuper.
Vous trouverez d'autres choses à faire, des documents à remplir pour perdre moins de temps en attendant la fermeture des bureaux de vote.
Du côté de Soukouta, quartier acquis au parti de l'opposition, l'UDP, les raisons avancées sont un peu différentes.
Je ne voulais pas voter, mais mon mari m'a forcé à le faire. En fait, je pense que ce n'est pas libre et juste et c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas.
Selon des sources au sein de la commission électorale, la participation ne devrait pas dépasser les 40% à la fermeture des bureaux de vote à 17h.
Et on passe maintenant à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 29. Melbourne, 26. Hobart, 24. Canberra, 23. Sydney, 25. Brisbane, 28. Cairns, 33. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce 10 avril. Les Australiens se rendront aux urnes le 21 mai prochain pour voter aux élections législatives. Le premier tour des élections présidentielles en France, c'est ce dimanche. N'oubliez pas d'aller voter si vous êtes français résident en Australie. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Thank you.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir mon collègue Christophe qui se trouve au Grand Prix d'Australie à Albert Park. Bonjour et bienvenue Christophe.
Merci Jean-Noël. Alors, je suis juste en dehors du Grand Prix. Je suis prêt à rentrer sur le circuit. Ouais. Bonjour à tous.
Alors, une belle atmosphère, belle journée, 27 degrés maximum. Le départ, c'est prévu pour 15 heures et une foule record attendue après 3 ans d'absence à cause de la pandémie.
Et ouais, ça a manqué un peu à tout le monde, hein. Moi le premier d'ailleurs, ce Grand Prix. Et c'est vrai que sur le week-end complet, hein, sur les 4 jours du Grand Prix, ils attendaient 750 000 personnes. Et ce que je peux voir autour de moi, c'est noir de monde. Et ça fait plaisir parce que tout le monde a vraiment l'envie que tout ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment de peur, il n'y a pas vraiment de crainte. Et juste une envie que le Grand Prix se passe pour le mieux. Et on a de la chance parce qu'il y a quelques jours, ils avaient prévu de la pluie pour aujourd'hui. Mais en fait, en pur Melbourne, ça s'est dégagé. Il fait beau, il y a un petit peu de vent, mais on est prêt à avoir un beau Grand Prix.
Alors, l'autre bonne nouvelle, c'est que le monégasque Charles Leclerc partira en pole position 2e fois cette saison.
Ouais, et il a vraiment le feu en ce moment, Charles Leclerc. La façon dont il l'a fait sur le dernier tour, il a vraiment battu Max Verstappen sur le fil. Et ce qui est intéressant, c'est que Max Verstappen, il fait 2e, mais... Il arrive 2e en disant qu'il avait vraiment complètement échoué dans cette séance de qualification. Donc ça nous promet une belle course, mais c'est vrai que c'est beau de voir les Ferrari revenus au plus haut niveau et ça fera toujours plaisir de voir un francophone, au moins un monégasque, s'il peut vraiment briller ici. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu une victoire Ferrari en Australie à Melbourne, donc ça ferait plaisir, je pense, à pas mal de tifosi également.
Alors une belle bataille qui s'annonce entre Leclerc et Verstappen. Et il ne faut pas oublier Sir Lewis Hamilton qui part en 5e position. Et ce n'est pas dans ses habitudes d'être si loin de la pole position.
Ouais, les Mercedes ont vraiment un début de saison très difficile. Et c'est vrai que ça va pour Russell, mais ça va aussi pour Lewis Hamilton. On sait à quel point il a eu du mal l'année dernière. Il a échoué vraiment aux portes de ce championnat du monde. Donc il a quand même beaucoup de choses à prouver encore une fois cette année. Même si avec 7 titres de champion du monde, on a quand même plus grand chose à prouver. Mais je pense qu'il veut vraiment 8e et il a vraiment eu du mal sur le début de la saison en elle-même. Donc ouais, Lewis Hamilton a beaucoup à prouver sur ce Grand Prix ici parce que faire 3 contre-performances en début de saison, c'est jamais bon parce que ça fait pas mal de chemin à rattraper derrière.
Merci Christophe et belle journée à Albert Park.
Merci Jean-Noël et puis je vais faire un petit mot, n'oubliez pas d'aller voter. Si vous êtes français en Australie, n'oubliez pas d'aller voter, c'est important. Grand Prix ou pas?
Absolument, merci. À bientôt.
À bientôt.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Grand Prix de Formule 1 d'Australie après 3 ans d'absence pour cause de pandémie de Covid-19. Eh bien, le départ sera donné à Albert Park cet après-midi avec le monégasque Charles Leclerc en pole position. On passe au foot Ligue 1. En France, hier, 2 matchs. Le Paris Saint-Germain qui a joué contre Clermont et Reims contre Rennes. Le bilan avec Johan Burgel pour RFI.
3 buts de Neymar, 3 autres buts de Kylian Mbappé. Le PSG est en tête du championnat. De son côté, Rennes s'est imposé 3-2 face à Reims. Une victoire importante pour les hommes de Bruno Genesio qui reprennent provisoirement la 2e place du championnat devant Marseille qui reçoit Montpellier. Ce sera ce dimanche à 21h heure de Paris. Rennes engrange un 6e succès de rang, mais les Bretons se sont quand même fait peur. Ils pensaient être à l'abri en inscrivant 3 buts, mais à l'image de Jonas Martin, les Rennais ont tremblé après les 2 réalisations rémoises en fin de match. On écoute le milieu de terrain français au micro d'Amazon Prime.
On n'est pas bien rentré dans le match, on s'est mis en danger un peu tout seul. On n'était pas réveillé, mais bon, on n'a pas pris de but sur nos temps faibles, ce qui est bien. Après, on a repris la maîtrise du jeu. On a fait circuler le ballon, commencer le faire et on marque. Voilà, il y a des joueurs talentueux dans l'équipe et on a réussi à marquer, se mettre à l'abri. Après, ce qui est dommage, c'est cette fin de match. Mais bon, on sait bien que les équipes, elles vont jouer à fond, surtout à domicile. Et j'ai l'impression, à chaud, qu'on s'est mis un peu le feu tout seul. On fait une super entame de seconde mi-temps avec la maîtrise. Pareil, on marque le troisième. Et après, je sais pas si on s'est relâché ou pas, mais on leur a donné des petits trucs pour qu'ils reviennent et on a eu chaud.
Vendredi, la victoire écrasante de Lorient, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
Saint-Étienne très largement battu par Lorient, 6 buts à 2. Les Verts qui avaient pourtant parfaitement démarré la rencontre en menant 2 buts à 0. Mais les Merlus sont revenus à hauteur avant même la pause. Puis ils sont déroulés en seconde période sur la feuille de score. Deux doublés signés par deux aigles. Le super eagle nigérian Terem Mofi et l'aigle malien Ibrahima Koné. Complètement irréel pour le 16e de Ligue 1 et son entraîneur Christophe Pélissier.
J'ai jamais vécu ça, ce que je disais c'est que... On était dernière attaque avant ce match-là. Aujourd'hui, on en met 6. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que à 2-0, même si on est resté sur notre plan de jeu, on savait qu'on a mis 3 attaquants devant pour mettre de la vitesse. C'est créé beaucoup d'occasions en première mi-temps. Le fait de marquer, je crois, d'égaliser avant la mi-temps donne un coup de fouet pour nous. Et donc, deuxième mi-temps, après, on arrive à enfoncer le coup. Donc voilà, ça fait longtemps que je dis que ce groupe, il lâchera jamais rien. Il a montré ce soir encore. Et c'est un peu irrationnel, mais quel plaisir de voir un stade plein et qui fait la fête ce soir. Aujourd'hui, on a l'efficacité en plus.
En Angleterre, il y avait la 32e journée. Plusieurs matchs ont été disputés et seront disputés ce week-end, comme nous l'explique Simon Bourtembourg pour RFI.
C'est ça, d'abord le bonheur pour Chelsea avec le doublé de Timo Werner et Mason Mount pour rassurer les supporters des Blues. Chelsea a pulvérisé ce Southampton ce samedi 6-0, un véritable festival offensif pour conforter leur troisième place en Premier League. La défaite des Saints face à Chelsea qui permet à Brighton de passer devant au classement. Brighton a gagné 2-1 face aux Gunners qui s'inclinent pour la deuxième fois de la semaine en Premier League. De son côté, Manchester United poursuit sa dégringolade au classement. Les Red Devils se sont inclinés sur le score de 1-0 face à Everton. Désormais à la 7e place du classement de Premier League, les hommes de Ralf Rangnick voient les places qualificatives pour les compétitions européennes s'éloigner tout doucement. Enfin, toujours en Angleterre, Leeds l'a emporté 3-0 sur la pelouse de Watford et Tottenham conforte sa 4e place au championnat après une victoire 4-0 à Aston Villa.
En Espagne, le leader, le Real de Madrid, s'est imposé contre Getafe. Pierre Chaperon, RFI.
Exactement, une soirée assez tranquille pour le Real. Casemiro a ouvert le score à la 38e sur un nouvel extérieur du pied de Vinicius et puis à la 68e sur une passe en retrait à l'entrée de la surface de Rodrigo. C'est Lucas Vazquez d'un tir croisé qui a marqué le deuxième but. Faible Getafe, hein. À peine dangereux sur ce tir en fin de match de Denis Unai. Entre ça et après le deuxième but, le Real a carrément géré. Modric, Kroos ne sont pas sortis du banc. Mendy, lui, est resté à la maison pour être prêt mardi soir contre Chelsea. Au classement, le Real a 12 points d'avance sur Séville qu'ils affrontent d'ailleurs la semaine prochaine, dimanche prochain. Et le sentiment ici en Espagne, c'est que ça sent très bon quand même pour le titre de champion d'Espagne.
Un mot sur Benzema, comment le Bernabéu l'a-t-il accueilli après ce triplé fantastique face à Chelsea en début de semaine?
On sentait une attente de la part du public. Il y avait comme un murmure quand le Français touchait le ballon. On avait le sentiment qu'il avait vraiment envie de marquer ce soir. Soirée sans but pour le numéro 9 Merengue, qui reste donc à 37 buts en 37 matchs. Il a quand même reçu une standing ovation quand il a été remplacé par Gareth Bale, le Gallois, qui lui a totalement été sifflé par le public. Vraiment deux mondes, deux salles, deux ambiances.
En Italie, l'Inter Milan a battu Hellas Vérone et en Allemagne, le leader Bayern de Munich s'est imposé contre Augsbourg. Simon Bourtembourg pour RFI.
Et les interistes ont dominé le Hellas Vérone, 2-0 pour les hommes de Simone Inzaghi qui reviennent provisoirement à 1 point de l'AC Milan au classement. Les leaders rossonero se déplacent ce dimanche sur la pelouse du Torino. De son côté, à Cagliari, la Juventus de Turin s'est imposée 2-1. Il reste au pied du podium. Enfin, dans le duel des mal classés, la deuxième partie du classement, pas de gagnant entre Empoli et la Spezia, 0-0.
L'Allemagne pour finir, victoire du Bayern qui se relance avant de retrouver Villarreal mardi en Ligue des Champions. champions.
Tout à fait, 1-0 pour les Bavarois face à Augsbourg grâce à l'inévitable Robert Lewandowski sur pénalty cette fois. Le voilà déjà buteur à 32 reprises en 29 matchs de Bundesliga. Le Bayern Munich consolide donc son avance sur Dortmund. 9 points séparent désormais les deux clubs. Enfin, dans l'autre rencontre phare de ce samedi en Bundesliga, c'était le derby de l'Union de Berlin, pardon, et c'est l'Union qui a pris le meilleur sur l'Hertha qui est relégable. Score final 4-1 pour l'Union Berlin.
Et en retour sur la Ligue Europa de cette semaine et les performances des buteurs africains, Cédric de Oliveira pour RFI.
Il a connu des matchs plus tranquilles dans sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a souffert sur la pelouse de Francfort et au final, le Barça quitte l'Allemagne sur un match nul 1-1 et garde toutes ses chances de qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. 1-1 aussi entre Leipzig et l'Atalanta Bergame. Même chose entre West Ham et Lyon, malgré l'entrée en jeu tardive camerounais Karl Toko et Kambi. Et puis en Ligue Europa Conférence, Marseille avec le Sénégalais Pape Gueye a dominé les Grecs du PAOK Salonique 2-1. Le Congolais Cédric Bakambu était titulaire lui aussi, mais il n'a pas marqué, ni son remplaçant Bamba Dieng. C'est le Marocain Omar El Kadouri qui a marqué pour les Grecs. A signalé aussi le match nul 3-3 entre Feyenoord et le Slavia Prague. 0-0 entre Leicester de Kelechi Iheanacho et le PSV Eindhoven de l'Ivoirien Ibrahim Sangaré.
Un mot de tennis avec la finale du tournoi de Charleston des Dames ce dimanche, 100% francophone. Et oui, avec la Tunisienne Once Jabeur qui jouera contre la Suissesse Belinda Bencic. Et puis à Houston, la finale des messieurs 100% américaines entre Opelka et Isner. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Et bientôt 31 minutes sur les ondes de Radio SBS et vous écoutez le programme en français. Et on passe à Europa Voice et dans cet épisode, nous allons revenir sur les élections en France de ce week-end. Le président Macron peut-il perdre ? Eh bien, élément de réponse avec Nathanaël Bloch qui est en compagnie de Christophe Mallet, notre collègue.
Europa Voice numéro 94 et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On va parler de la campagne électorale maintenant en France qui bat son plein. Premier tour des élections ce dimanche, ça arrive. Vous pouvez, vous devez d'ailleurs, si vous êtes votre devoir civique vous tient à cœur, aller voter à peu près partout dans toutes les capitales, les villes. Renseignez-vous localement. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la campagne électorale. Mais en faisant le lien, Emmanuel Macron, président de l'Union européenne pour l'instant, sur la présidence tournante. Le rôle d'Emmanuel Macron dans cette crise en Ukraine, il est primordial ou est-ce qu'on commence à sentir que ça patine un petit peu quand même avec Poutine ?
Il y a deux niveaux d'analyse dans ça. C'est d'abord que finalement, c'est une parmi d'autres crises qu'Emmanuel Macron a dû gérer depuis le début de son mandat. Que ce soit sur la scène intérieure ou la scène extérieure, il faut le rappeler, mais le mandat d'Emmanuel Macron peut être plus que d'autres un mandat de président récent, c'est-à-dire que Sarkozy, on se rappelle évidemment de la crise financière globale, François Hollande, on se rappelle des attaques terroristes, mais Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, vraiment, ça a commencé avec les gilets jaunes, on a eu après les violences policières, et vous rappelez la loi justement qui interdisait de filmer des policiers en exercice, qui avait amené beaucoup de gens dans la rue. On avait eu aussi l'affaire Benalla et la démission de Gérard Collomb. On avait eu la pandémie, évidemment. Et puis là, on termine avec l'Ukraine.
Oui, la grève des transports, la réforme des retraites. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses aussi.
Non. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette crise, finalement, pour Emmanuel Macron, c'est une crise parmi d'autres à gérer dans son mandat. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va avoir un effet limité. Ça va avoir un effet limité parce que, rappelons-nous, la popularité d'Emmanuel Macron, elle était quand même tombée à 20% un an après la crise des Gilets jaunes et au niveau de l'affaire Benalla. Donc, j'allais dire, il a pu rouler sa bosse par rapport à ces crises et par rapport à l'image que ça donne de lui auprès de l'opinion. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, Christophe, et c'est là où je pense que ça peut avoir un peu plus d'impact, c'est que Emmanuel Macron a quand même réussi pendant son mandat à un petit peu justement contrebalancer certains échecs sur la scène intérieure par des succès sur la scène internationale ou diplomatique. C'est-à-dire, finalement, avoir réussi à faire plus ou moins plier Donald Trump sur plusieurs dossiers, relancé le moteur européen avec l'Allemagne en prenant encore plus de lead avec la fin de règne d'Angela Merkel, avoir quand même géré de manière plutôt correcte et avec un certain panache la crise du Brexit, et maintenant en assurant la présidence tournante de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait un petit nuage sur la politique, sur la scène internationale. Et puis, là, cette crise ukrainienne, il faut le dire, c'est la première fois où quand même Emmanuel Macron, surtout au niveau européen, est quand même en difficulté. Et donc, je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que ça va être moins facile pour lui, pas tellement de dire « Oh là là, il y a une crise, je vais pas m'en sortir », mais ça va être moins facile pour lui de rester sur un bilan complètement positif, ou en tout cas majoritairement positif sur la scène internationale. Et je crois que c'est surtout ça, en fait, pour lui, le risque de cette crise ukrainienne, c'est de montrer que malgré toute cette aura, malgré tous les succès à l'international, Emmanuel Macron, il reste quand même impuissant pour faire arrêter un génocide par un président russe aux portes de l'Europe. Donc moi, je crois que c'est ça vraiment l'élément qui pourrait lui faire perdre quelques points, en tout cas qui ternirait un petit peu sur les derniers jours son image de leader et la voix retrouvée de la France.
Et le coup de la vie dans tout ça, parce que ça a été quand même la pierre angulaire de son début de mandat, quand les revendications des Gilets jaunes, c'était globalement autour du coup de la vie. Bon, il s'est passé 5 ans, il y a eu une pandémie, on l'a dit, tout ce qu'il y a eu dans le mandat d'Emmanuel Macron. Mais il semble que le coût de la vie reste toujours un problème quand même en France, partout dans le monde, mais en France également, et que c'est vraiment un sujet qui s'invite dans cette campagne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le coût de la vie qui augmente, et notamment le coût du pétrole, et encore plus si le pétrole et le gaz russe vient à manquer parce qu'on a décidé d'arrêter de l'acheter, est-ce que ça peut vraiment être aussi un problème? Ou est-ce que le temps jouera pour Emmanuel Macron? Il reste 3-4 jours avant le premier tour, 15 jours avant le prochain tour après, et que normalement, ça ne devrait pas impacter sa fin de campagne et la campagne de l'entre-deux-tours.
Alors, sur la question du pétrole, enfin de l'essence, etc. Emmanuel Macron a encore déclaré il n'y a pas longtemps qu'il voulait maintenir une espèce de bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité et de maintenir une ristourne à la pompe. Donc bon, ça, en termes de, j'allais dire, d'annonce et d'effet d'annonce, c'est ce qui s'est passé là cette semaine et donc qui va être retenu avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a deux choses, moi, qui m'interpellent dans votre question. C'est d'abord que, en fait, sur beaucoup d'indices quand même macroéconomiques, je parle notamment en augmentation du produit intérieur brut et en termes de chiffres de chômage, où on est à 7,4%, si je ne m'abuse, c'est-à-dire à des chiffres qu'on n'avait pas retrouvés depuis quasiment 15 ans. Rappelez-vous, dans les dernières années politiques, on était autour de la barre des 10%, là on est sur 7,4 selon les derniers chiffres. Donc sur ces grandes indications macroéconomiques, c'est vrai que le bilan d'Emmanuel Macron paraît assez positif. Et puis il y avait un article qui est paru chez nos confrères du Guardian, si je ne me trompe pas, sur « Il fait bon vivre en France, ce Emmanuel Macron ». Le problème, Christophe, effectivement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des indices macroéconomiques qui paraissent dans le vert, positif, le ressenti de la population est autant, si ce n'est plus important. Et effectivement, c'est ce qui ressort d'ailleurs des derniers débats et des dernières attaques des candidats adverses, c'est que l'impression qui est donnée ou les remontrances qui sont faites, c'est que le coût de la vie est toujours aussi cher, c'est qu'il y a une paupérisation de plein de parties de la population, les étudiants, enfin les étudiants, les retraités, etc. Il y a encore tout ce débat sur la réforme des retraites qui est une espèce de marronnier politique maintenant depuis plusieurs décennies en France. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que Emmanuel Macron n'a pas réussi à résoudre. Et encore une fois, et ce malgré l'apparence de bons résultats macroéconomiques. Je dirais le deuxième élément, Christophe, à ça, c'est que malgré ça, finalement, les réponses ne semblent pas non plus être apportées par les camps adverses. Et je ne sais pas si on va en parler dans cette émission, dans ce numéro de Europa Voice, mais d'ailleurs, les sondages sont assez éloquents sur ça. C'est-à-dire que malgré ce ressenti-là, Emmanuel Macron, même s'il est talonné par Marine Le Pen, on reste quand même à deux jours du premier tour, trois jours du premier tour, à un écart de 5-6 points. Donc Emmanuel Macron, encore une fois, malgré ces critiques-là, et en tenant compte ces sondages-là, pour l'instant, fait quand même la course en tête.
Mais justement, en fait, c'est intéressant parce que le débat à avoir sur ces élections, c'est, à mon avis, il y a plusieurs questions dans ces élections. Mais on va d'abord s'intéresser à ça. Emmanuel Macron a dynamité le format, le schéma politique lors des dernières élections présidentielles, il y a 5 ans. Aujourd'hui, le modèle restera le même. On voit très bien que on a Emmanuel Macron en tête. Il est dans un sandwich des extrêmes, à droite et à gauche. C'était un peu déjà le cas il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut dire que la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle sont aujourd'hui mortes en France?
Emmanuel Macron, il y a 5 ans, et ça, je crois que tout le monde s'accorde à le dire, il a mis fin au système bipartisan classique. Il a dynamité ce système, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on a on n'a plus une gauche qui s'oppose à une droite, avec parfois des surprises, avec une extrême droite qui arrive à accéder au second tour. Emmanuel Macron a vraiment dynamité ce système-là et a ringardisé les partis de gouvernement classiques et de gauche et de droite. Ça, c'est sûr, Christophe. Et par contre, ce qu'il n'a pas réussi à dynamiter, c'est une sorte de bipartisanisme ou d'opposition entre deux partis, mais qui se sont déplacés sur un autre terrain. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus la gauche et c'est plus la droite, mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est et l'extrême droite et l'extrême gauche qui talonnent Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il est pris dans ce sandwich-là, comme vous l'avez dit. Donc, finalement, le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir faire ce coup-là à chaque fois. Hein, il ne va pas pouvoir faire à chaque fois le coup... je suis ni de droite ni de gauche, parce que là, il a plus en face de lui des partis ringardisés classiques, mais parce qu'il a des extrêmes qui, par définition, portent en eux des programmes de contestation. Et pour moi, c'est ça le véritable, j'allais dire, piège, qui va pas forcément se refermer sur Emmanuel Macron au moment des présidentielles, mais qui, petit à petit, va faire qu'on a des extrêmes qui, de plus en plus, se rapprochent du pouvoir. Il faut aussi le rappeler pour nos auditeurs d'SBS, on passe quand même Front National et des partis d'extrême droite avec des ratios de 80-20 en 2002, puis des ratios de 60-40 12 ans plus tard. Et là, dans les simulations de second tour, on a eu pour la première fois cette semaine Marine Le Pen qui gagnait un second tour face à Emmanuel Macron. Donc ça veut dire aussi le danger pour Emmanuel Macron, c'est que finalement c'était un one shot qu'il a fait il y a 5 ans en ringardisant ces deux partis qui, précisons-le, depuis n'ont pas réussi à remonter. Hein. C'est terriblement vrai pour la gauche, mais d'une certaine façon, quand on a une droite à 8% arrivant en cinquième position dans les sondages, ça veut dire que la droite n'a pas non plus réussi à renouveler son corpus. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'Emmanuel Macron va pas pouvoir refaire le coup de 2017 ad vitam aeternam.
Ouais, et il y a surtout une autre statistique qui est intéressante. Marine Le Pen, en 2012, elle fait 17%. En 2017, elle fait 21%. Et là, l'extrême droite, puisqu'il faut additionner maintenant un certain Éric Zemmour, on est à presque plus de 30% au premier tour. Et ça, c'est un chiffre qui est flagrant.
Ah bah pour moi, c'est deux choses. C'est-à-dire, d'abord, effectivement, que les idées, là je parle même pas des partis, mais c'est-à-dire que les idées d'extrême droite qui sont portées par des candidats, elles augmentent de plus en plus et elles sont affirmées de plus en plus par des candidats et donc par les populations qui les portent. Ça, c'est les premiers éléments. C'est-à-dire que finalement, elles sont plus des idées tellement extrêmes que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est des idées qui deviennent mainstream. Ça, c'est le premier élément, Christophe, parce qu'on a Marine Le Pen, parce qu'on a Éric Zemmour, parce qu'on a une extrême droite à plus de 30%, parce qu'on a une extrême gauche à 17% avec Mélenchon en troisième position mais qui arrive quasiment au 25% si on additionne Philippe Poutou, Fabien Roussel et Nathalie Arthaud. Donc ça, c'est le premier élément. Mais surtout, pour moi, le deuxième élément en termes de sociologie politique qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, c'est aussi la première fois dans une élection, et ce qui explique le score élevé de Marine Le Pen dans le cadre d'un second tour, pour la première fois, l'extrême droite a une réserve de voix pour le second tour. Ce qui faisait avant que l'extrême droite, Christophe, n'accédait pas à la présidence, c'est qu'en fait, finalement, la plupart des personnes qui voulaient voter extrême droite le faisaient au premier tour, et qu'après, on n'avait pas de réserve, alors que la droite traditionnelle ou Macron, surtout la droite, avait les réserves, le barrage républicain, la gauche, les centristes, etc. Là, Marine Le Pen, elle a, ça ne veut pas dire qu'il y a une conversion automatique de 100%, mais elle a une réserve de voix énorme avec un Éric Zemmour à 10%, avec un Nicolas Dupont-Aignan qui va quand même fournir quelques voix au second tour, avec d'autres extrêmes aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une porosité aussi entre les extrêmes. Hein, quand on voit les simulations de vote, le vote Mélenchon ne se déplace pas intégralement, soit sur une abstention, soit sur un vote pour un candidat comme Emmanuel Macron. Il y a une partie aussi de ce vote-là qui va dans un autre extrême. Et donc, ce qui est dangereux, ce qui est en fait capable de créer une dynamique, parce que c'est ce qu'on cherche entre le premier et le deuxième tour, c'est rassembler pour créer une dynamique grâce aux réserves de voix. Ben là, pour la première fois, l'extrême droite a une vraie réserve de voix pour le second tour.
Absolument, et ce sera une affaire à suivre, puisque le premier tour de l'élection, comme je le disais, c'est dimanche, un peu partout dans le monde. Hein. On votera en Australie, d'ailleurs, avant de voter en France. Donc dimanche, voilà. Merci Nathanaël.
Merci Christophe, bon vote.
Merci, bon vote à tous.
Et on passe à un rappel des grands titres de ce dimanche 10 avril. Les Australiens se rendront aux urnes le 21 mai prochain pour voter aux élections législatives. L'OTAN travaille sur des plans pour une présence militaire permanente sur ses frontières orientales. Le premier tour des élections présidentielles en France, c'est ce dimanche. Et bientôt 57 minutes sur les ondes de Radio SBS. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Quelques annonces. N'oubliez pas surtout d'aller voter si vous êtes français résident en Australie et vous avez jusqu'à 18h ce dimanche. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts sur sbs.com.au/french. Notre prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Entre-temps, passez une très belle journée et à très bientôt sur SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.